Interprétation biblique et doctrine prioritaire par Peter Amsterdam. En travaillant sur ma série sur les évangiles et les épîtres, j'ai pris pleinement conscience de la grande diversité d'interprétations des Écritures parmi les chrétiens. Pour mes recherches sur ces séries, j'ai consulté près de 50 livres, et bien que ces auteurs s'accordent sur de nombreux points, leurs explications divergent souvent. Ce sont des auteurs chrétiens brillants, des théologiens, des enseignants, des prédicateurs, des évangélistes et des commentateurs bibliques qui excellent dans leur domaine, mais qui ne sont pas toujours d'accord entre eux concernant l'interprétation de certains passages bibliques. Bien qu'ils s'accordent sur les croyances fondamentales de notre foi chrétienne, leurs interprétations de tel ou tel passage peuvent différer. Heureusement, de nombreux chrétiens comprennent que tout dans les Écritures n'a pas une importance capitale par rapport au message fondamental de la Bible. Certaines questions sont de moindre importance, et la façon dont on interprète ces passages des Écritures n'affecte en rien le fait que Jésus a donné sa vie pour expier les péchés de l'humanité et que, par sa mort, le salut est offert à tous ceux qui l'acceptent comme leur sauveur. Alors que certains orateurs chrétiens passent leur temps à critiquer d'autres chrétiens avec lesquels ils ne sont pas d'accord et incitent les autres à faire de même, dans l'ensemble, les chrétiens d'aujourd'hui reconnaissent qu'au-delà des croyances fondamentales partagées par tous, il existe des interprétations différentes de certains passages de la Bible et que ce n'est pas un problème. J'ai un ami chrétien qui croit en la prédestination. Je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Je pense que chacun est libre d'accepter ou de rejeter Jésus comme sauveur. De son côté, il considère que Dieu a choisi ceux qui seront sauvés, lesquels ne peuvent refuser d'être sauvés, tandis que ceux qui n'ont pas été choisis ne pourront pas obtenir le salut. C'est une position classique de la théologie réformée. Il m'a expliqué en s'appuyant sur les Écritures les raisons de ses convictions, et de mon côté, je lui ai démontré en me fondant sur les Écritures les raisons de mon désaccord. Toutefois, malgré nos divergences théologiques sur cette question, je le considère comme un chrétien sincère qui aime le Seigneur, témoigne de sa foi et s'efforce de vivre en accord avec la parole de Dieu. Il me semble qu'il pense la même chose de moi, et nous avons donc convenu de ne pas être d'accord sur ce sujet. Quelles que soient les divergences dans l'interprétation des Écritures, il est indéniable que le salut s'obtient par la foi en Jésus. Nos divergences d'opinion sur l'interprétation de certaines Écritures n'affectent en rien le fond de notre compréhension commune, à savoir que ceux qui croient en Jésus et l'acceptent comme leur sauveur seront sauvés. Il existe plusieurs autres points de doctrine sur lesquels les chrétiens sont en désaccord. Par exemple, est-il indispensable de se faire baptiser? Et si c'est le cas, est-il nécessaire d'être entièrement immergé ou d'avoir simplement la tête aspergée d'eau? Est-on rempli du Saint-Esprit au moment où l'on est sauvé ou seulement lorsqu'on prie expressément pour le recevoir? Il y a une différence entre les croyances cessationnistes et continuationnistes. D'un côté, les continuationnistes soutiennent que tous les dons du Saint-Esprit sont toujours en activité, tandis que les cessationnistes estiment que les dons miraculeux comme le don des langues, la guérison, la prophétie et les miracles sont révolus. Même parmi les continuationnistes, il existe des divergences. Par exemple, concernant le don de guérison. Si les continuationnistes affirment que le don de guérison est actif dans le christianisme contemporain et que Dieu effectue des guérisons miraculeuses, ils ne sont pas tous d'accord sur la question de savoir si Dieu guérit miraculeusement dans chaque cas. Il y a aussi des divergences sur l'âge de la terre entre les créationnistes qui croient en une terre jeune et ceux qui croient en une terre ancienne, et notamment sur la question de savoir si les jours de la création décrits dans la Genèse sont des journées littérales de 24 heures ou s'ils représentent de longues périodes. Il apparaît clairement qu'il existe des désaccords sur plusieurs points de doctrine parmi les chrétiens qui sont fermes dans leur foi biblique et leur amour pour Jésus et qui restent fidèles aux enseignements des Écritures ainsi qu'à la Grande Commission. En particulier, il existe des divergences d'interprétation sur des points précis concernant la fin des temps et la manière dont elle se déroulera, ainsi que sur le moment où elle aura lieu. En somme, l'essentiel est de vivre en accord avec les enseignements de Jésus, de le suivre et de transmettre le message de l'Évangile aux autres. Tout bien considéré, dans la perspective de vivre conformément aux enseignements de Jésus, de le suivre et de transmettre le message de l'Évangile, je ne pense pas que certains de ces détails aient une grande importance. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude ni être dogmatiques sur les détails relatifs au moment du retour de Jésus, aux événements qui l'entourent et à d'autres aspects des prophéties, ni à la manière dont ils se réaliseront. Ce que nous savons, c'est que la Bible nous annonce que Jésus reviendra, que les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis ceux qui seront vivants seront enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Le moment exact de cet événement et la manière dont les choses se dérouleront sont secondaires par rapport à la vérité biblique du retour de Jésus. Que nous soyons vivants pour assister aux événements de la fin des temps ou non, nous savons que lorsque notre vie prendra fin, nous comparaîtrons devant le Seigneur pour rendre compte de la façon dont nous aurons vécu. Donc, s'il est vrai qu'essayer de comprendre les prophéties bibliques concernant l'avenir, l'Antéchrist, le retour du Christ, le millénium et le nouveau ciel et la nouvelle terre puissent être fascinants et captivants, c'est somme toute moins important que d'accomplir la Grande Commission et de faire de notre mieux pour vivre notre foi au quotidien. Nous pouvons avoir des convictions profondes sur une certaine doctrine, comme mon ami réformé en a sur la prédestination, ou comme moi qui m'oppose à cette doctrine. Toutefois, si nous venions à parler négativement l'un de l'autre en raison de notre désaccord sur ce point doctrinal, nous agirions de manière peu chrétienne. Quand cela se produit, comme nous le constatons trop souvent sur les réseaux sociaux, cela nuit à la cause du Christ et donne une très mauvaise image du christianisme aux gens qui ne sont pas croyants. Lorsque nous agissons de cette manière, cela soulève des questions sur notre capacité à vivre réellement en accord avec les enseignements du Christ. Bien entendu, ce n'est pas la même chose que de devoir intervenir lorsque quelqu'un prêche une doctrine manifestement fausse. Toutefois, lorsqu'il est nécessaire de faire entendre sa voix, cela doit être fait avec douceur et respect. En l'occurrence, je parle ici des positions concernant l'interprétation de passages bibliques qui ne sont pas fondamentaux pour le christianisme et sur lesquels les chrétiens peuvent avoir des divergences d'opinion. Une attitude dogmatiste peut engendrer l'intolérance et le jugement, qui sont contraires à l'esprit du Christ, et peut faire fuir les gens au lieu de les rapprocher. Lorsque nous sommes dogmatiques, cela peut nous amener à critiquer ceux qui ne partagent pas nos opinions. Cela crée un scénario de type « eux contre nous » qui peut nuire à la cause du Christ. Lorsque nous nous engageons dans des débats animés sur l'interprétation de sujets qui ne sont pas des croyances fondamentales du christianisme, cela risque de nous éloigner des aspects les plus importants de notre foi, comme mettre en pratique les enseignements de Jésus dans notre vie de tous les jours ou incarner un exemple vivant du Christ pour inspirer les autres à se tourner vers lui. Cela entache notre témoignage en tant que chrétiens quand nous faisons preuve d'un manque d'amour et de tolérance. Pour nous qui sommes chrétiens, il est important d'adopter une attitude d'humilité et de comprendre que les croyances personnelles d'autres croyants peuvent être différentes des nôtres. En tant que chrétiens, nous adhérons aux mêmes principes fondamentaux de notre foi et nous devrions faire preuve d'amour et de respect envers ceux qui interprètent certaines Écritures d'une manière différente de la nôtre. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans le magnifique chapitre sur l'amour en 1 Corinthiens, « En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, versets 1 et 2, 8 à 10, 12 à 13.